Vous avez un message important.
On est vendredi.
Il est 11h.
Et c'est l'heure de...
Message important.
Des sujets qui nous semblent importants, qui nous ressemblent,
qui méritent d'être mis en valeur.
Des débats.
Des explications.
C'est ce que nous avons à offrir.
Et ça se passe maintenant
sur Studio Z.
Bonjour à tous et bienvenue dans la première édition de 2021 de Messages Importants.
Aujourd'hui, nous recevons Émilie et Davy pour nous parler de leur projet Backup Done.
Bonjour à vous, merci d'avoir accepté cette invitation. Est-ce que vous pouvez rapidement vous présenter ?
Bonjour, donc Davy, j'ai une quarantaine d'années. Je suis blésois depuis une petite dizaine d'années. Et donc, je travaille dans le domaine du bois depuis, on va dire, que je suis petit.
Bonjour, donc Émilie, j'ai 39 ans, donc je suis blésoise depuis 15 ans et je travaille dans la fonction publique territoriale à la communauté d'agglomération de Blois dans le cycle de l'eau, donc tout ce qui est eau, assainissement.
Et en fait, quel est le but de votre projet ?
Alors le but de notre projet, c'est de récolter des fonds pour la trisomie 21 en parlant de l'inclusion par le sport pour les personnes atteintes de handicaps mentaux et psychiques.
Pourquoi vous avez choisi la trisomie 21 ?
En fait, on est sportif, on a une passion commune avec Émilie, c'est le sport. Et le long de nos courses à pied, de nos trails, de nos marathons que l'on a fait un peu autour de nos voyages, on a pu voir des athlètes avec un handicap moteur, mais pas mental sur les courses à pied. Alors qu'on sait qu'il y a des grands athlètes qui sont liés à une fédération française du sport adapté. Et on aimerait mettre plus en avant, aussi bien par l'inclusion du sport, mais aussi par d'autres inclusions, culture, école, etc.
Voilà, le but, c'est de mettre l'accent effectivement sur le handicap mental. Et on a choisi la trisomie parce qu'on a vu qu'il y avait un taux de prévalence dans le monde qui était assez élevé, à peu près une naissance sur 700. Et en plus, cet été, on avait lu beaucoup d'articles sur un jeune Américain qui s'appelle Chris Nikic, qui a fait un Ironman. Et ça nous a aussi donné l'idée. Alors, on aborde le sujet par l'angle de la trisomie 21, mais effectivement, ça met quand même en lumière le handicap mental dans tout, enfin pour tous ceux qui sont concernés.
Et vous pouvez nous dire rapidement et simplement, c'est quoi la trisomie 21 ?
Donc la trisomie 21, c'est une anomalie génétique. Donc il y a un chromosome en plus.
Voilà. Ça génère à la fois des difficultés cognitives, ça génère aussi parfois donc des difficultés physiques aussi, hein. Parfois les trisomiques doivent se faire opérer du cœur, etc. Enfin, il y a évidemment, selon chaque personne, hein, peut avoir différents types de handicap, des troubles aussi, peut-être de l'équilibre, des choses comme ça. Enfin, quand on a lu l'entraînement justement que Chris Nikic avait fait, on a vu que c'était pas si simple et qu'il lui fallait un guide aussi pour l'aider, notamment pour des questions de repères, de... Donc il y a différents troubles physiques qui sont aussi associés.
Et il y a aussi différents types de trisomie 21, puisqu'il y a des personnes plus ou moins touchées, puisque parfois il y a un autre chromosome, mais parfois il y en a un, mais pas partout. Donc on appelle ça la trisomie en mosaïque aussi. Donc après, il y a plusieurs types aussi de trisomie 21.
Les connaissances autour de la trisomie 21 ont beaucoup évolué depuis quelques années. Pour vous, qu'est-ce qui reste à faire sur la trisomie 21 encore ? Qu'est-ce qui reste à améliorer pour les conditions de vie des personnes ?
On a pu voir sur certains pays, entre guillemets, moins développés, comme l'Arménie, plus d'inclusion par le travail. Donc on le voit dans le Loir-et-Cher, puisqu'il y a un jeune trisomique qui travaille à Auchan de mémoire. Mais on a vu en Arménie, par exemple, une boulangerie où il n'y avait que des personnes en handicap mental avec deux éducateurs. Donc on pense qu'en discutant aussi avec l'Éclaircie, qui est notre petite association que l'on va aider, qu'il y a encore des choses à faire par rapport au reste du monde Et donc l'inclusion, ça fait partie des choses qui vont permettre d'ouvrir un peu plus le handicap mental aux gens, entre guillemets, normaux comme nous, quoi.
D'accord. Et comment vous est venue l'idée de sensibiliser autour de cette maladie, en fait ?
En fait, ça nous est venu vraiment parce qu'on voyait qu'il y avait beaucoup de sensibilisation autour du handicap physique, mais très peu autour du handicap mental. D'ailleurs, par exemple, on parle souvent des Jeux paralympiques pour les Jeux olympiques, mais personne ne sait qu'en fait, c'est réservé juste au handicap physique et visuel, et que les handicaps mentaux, c'est une autre... Il y a d'autres Jeux olympiques. Mais en fait, quand on en parle autour de nous, on se rend compte que personne ne le sait. Et même nous, d'ailleurs, enfin, on ne le savait pas avant. Donc, à part, les fédérations, évidemment, concernées, les familles concernées, tout ça, on en parle rarement. Donc, on voulait aussi mettre en lumière tout ça. Et que le but, c'est aussi que les personnes atteintes de handicap... mentaux ne fassent pas toujours des activités qu'entre elles, mais qu'elles soient bien, elles fassent bien des activités avec tout le monde dans la société.
Y compris donc des clubs sportifs, des associations avec que des sportifs qui n'ont pas de difficultés mentales ou physiques. Donc le but aussi, par exemple, sur le Blaisois, c'est peut-être une fois par an que l'association L'Éclaircie arrive sans le demander à faire un entraînement sportif avec des coureurs, avec... par exemple la JBO ou des clubs sportifs. Donc après, c'est aussi le relais qu'on veut passer une fois qu'on sera parti sur la route, c'est de dire pourquoi pas des écoles, des profs de sport, la JBO, dire on contacte L'Éclaircie et on participe avec une petite activité simple, un petit tour de vélo, un entraînement de foot, des choses comme ça.
Que L'Éclaircie 41, donc c'est une association qui est à Vineuil, donc qui est spécialisée dans les loisirs adaptés. Voilà.
Et pourquoi vous avez choisi de partir en vélo ?
On est on voyage beaucoup. On a fait forcément avion pour aller à certains endroits. On n'avait pas le choix. Pourquoi ? Parce que les vacances, c'est bien. En France, on a beaucoup de vacances, mais c'est 3 semaines. Donc, on est obligé de prendre l'avion. Là, on est parti en vélo parce qu'on veut partir longtemps. On ne polluera pas. Donc, nous, le voyage sans aile, c'est important pour nous parce qu'on ne veut pas polluer. Donc le vélo, c'est bien. On aurait pu le faire aussi à pied ou avec un animal. On a vu dernièrement une fille qui a fait l'Europe avec un chameau. Et nous, à pied, pour nous, ça aurait été trop long. On connaît la marche puisqu'on a fait certains pays comme la Tunisie, comme l'Arménie, comme la Géorgie, la Bulgarie. On a fait ça en mode backpackers. Sac à dos, mais c'est long, et quand on est vraiment à des endroits dans des trous qu'on peut pas s'en sortir, qu'on a plus d'eau, c'est compliqué. À vélo, on sait qu'on va voyager plus loin, plus vite aussi, et que on sera moins fatigué aussi parce qu'on aura tout sur nous, on sera encore indépendant par le transport, quoi. Parce qu'après, quand on calcule un coût de voyage, le transport, c'est un budget très très élevé. Par rapport à la nourriture, l'hébergement, c'est un poste très élevé.
Et d'ailleurs, comment vous calculez les coûts du transport ?
Alors en fait, comme on voyage depuis longtemps, on connaît des sites de référence. Et il y a un site qui s'appelle Tour du Mondiste, qui est vraiment le site que j'allais dire connu par un peu tous ceux qui partent en voyage longtemps. Et qui a des tas de tuyaux, qui a déjà des fichiers Excel presque pas tout préparé, mais où il y a déjà beaucoup d'informations. Donc en fait, c'est assez facile de trouver maintenant avec les réseaux les coûts de la vie dans chaque pays pour chaque type de paramètres, les repas, les transports,
les vaccins, les visas, etc.
Donc c'est vrai que maintenant les réseaux, ça facilite aussi, je pense, par rapport à il y a 50 ans, de trouver toutes ces informations pour se faire son tableau Excel, ce qu'on a fait pour préparer le projet.
Bon, après, on a aussi une force, c'est avec tous les voyages qu'on a fait, on prenait Lonely Planet, Guide du Routard, et à la dernière page, on notait chaque jour les frais. Aussi bien un frais, l'euro du parking, les 10 euros du repas, les 50 centimes d'une bière en Bulgarie. Donc à chaque fois, à chaque voyage, on notait ça et on faisait une moyenne journalière sur chaque pays. Donc il y a des pays comme le Cambodge, on avait un budget jour de 20 euros. Et il y a d'autres pays comme les plus chers, c'est la Suède où c'était 50-60 euros au jour avec un voyage en camion, quoi.
Et comment vous avez sélectionné les pays que vous allez traverser ?
Alors, comme on ne voulait pas du tout prendre l'avion, on a regardé aussi les pays. Est-ce qu'il y a des pays qui sont, comme vous savez, assez déconseillés, on va dire, par le ministère des Affaires étrangères, hein, voilà, qui sont plutôt en rouge sur la carte. Donc, on a essayé d'éviter ces pays-là. Et puis, aussi, de faire des pays vers lesquels on ne s'était jamais tourné, notamment tout ce qui est, par exemple, Kazakhstan, Ouzbékistan, Kyrgyzstan, tout ça. Nous, on n'avait jamais fait... l'Asie centrale, donc ça nous intéressait, parce qu'il y a aussi toute une partie de la route de la soie, donc un tracé plutôt historique. Donc c'est pour ça qu'on a traversé l'Europe pour s'orienter vers ces pays-là, et puis ensuite la traversée de la Chine, où là y a beaucoup de vélos, on peut quand même dire oui. Que la Chine c'est aussi le pays du vélo, le Vietnam il y a aussi évidemment beaucoup de vélos, et puis ensuite arriver à Nouméa, on voulait arriver en terre française. Et puis après, on se laisse la porte ouverte là-bas, si la vie nous plaît là-bas, si on trouve du travail là-bas.
De rester
là-bas,
un peu ou peut-être repartir. Pour le moment, c'est dans un an ou deux ans, donc on a encore du temps. Donc on va déjà faire le trajet. Une fois arrivé à Nouméa, on prendra nos marques et on verra ce qui restera aussi en budget, quoi.
Et ça nous permettra aussi là-bas de découvrir d'autres parties du monde qu'on ne connaît pas. Parce qu'on a déjà fait pas mal... tous les deux quand même de pays aussi d'Afrique, Afrique du Nord, ou Afrique de l'Ouest, mais par exemple l'Asie centrale, on ne l'avait pas fait.
Donc vous n'êtes pas mis de limite de temps, il faut qu'on soit rentré dans deux ans ou...
Non, voilà, on n'a pas de limite de temps.
Après, le problème de mettre une limite de temps, on l'a vécu, on a fait le maximum, c'était 3 mois en Asie. Moi qu'Émilie, mais à un moment, arrivé à la moitié du voyage, je me suis dit, ça y est, on a franchi le cap de la moitié, on rentre. Et après, la mentalité n'est plus la même. Donc en fait, on a une date, mais sans avoir de date, on sait qu'on mettra 14 à 18 mois. Mais de toute façon, il faut se laisser le temps de vivre le voyage. Et on sait que si on a des dates, c'est plus un voyage. Bon là, ça reste un projet, quoi.
Voilà, on veut un voyage lent où on prend le temps de rencontrer les gens. Et si on a envie de s'arrêter 2 semaines à un endroit parce qu'on est bien, on veut pouvoir y rester.
Et comment ça se passe pour votre travail ? Parce que je pense qu'à côté, vous devez travailler. Comment vos employeurs, qu'est-ce qu'ils en pensent ?
Après, il y a emploi public et emploi privé. Moi, je suis dans le domaine privé, donc j'avais 2 choix. Soit une démission avec plus de protection sociale, avec rien après. Et après, on avait le choix de négocier une rupture conventionnelle. Donc, j'ai fait la demande à mon employeur... Que je remercie, et donc c'est l'entreprise Godela, je tiens à le dire aussi. Donc l'employeur a signé une rupture conventionnelle qui va me protéger en cas de retour en France sur la sécurité sociale, sur la recherche d'un emploi, etc. Et une rupture conventionnelle se fait aussi parce qu'il y a eu une bonne entente pendant 3 années avec l'employeur. Donc c'est aussi une sorte de remerciement au travail effectué, quoi.
Et moi, de mon côté, donc, je suis fonctionnaire, donc je vais prendre une disponibilité, en fait. Donc, c'est l'avantage de la fonction publique.
Et comment vous allez arriver dans les villes, et comment ça va se passer ? Est-ce qu'il y a des organisations qui vous attendent, des gens que vous connaissez ? Comment ça va concrètement se passer ?
Oui, alors, on a trois associations que l'on sponsorise, on va dire. On va récolter des fonds pour DSI, Down Syndrome International, donc trisomie 21 sur la planète. Et là, sur chaque pays, il y a une entité qui est reliée à cette assos. Donc dans chaque pays, il y a
des contacts. Identifiés.
Voilà. En France, on a trisomie 21 France qui est basée à Saint-Étienne. Donc lundi, on sera à Saint-Étienne pour les rencontrer. Et eux nous donnent aussi les coordonnées de toutes les associations qu'il y a. Donc, il y en a une, la plus proche, c'est à Orléans et à Tours. Et donc, par exemple, à Tours, on a une action prévue, un match de tennis avec des jeunes atteints de trisomie 21 ou d'un handicap mental. Donc, on va faire un match de tennis avec eux. Et on va, le jour de notre départ, qui est le 21 mars 2021, on va faire une action pour récolter des fonds pour la trisomie 21.
Sachant que le 21 mars, donc, c'est la journée mondiale de la trisomie, c'est pour ça qu'on a choisi de partir ce jour-là.
Et donc, le 21 mars, on est en train de mettre en place avec la mairie de Blois, en fonction des normes sanitaires, une petite boucle facile, Blois...
La Creusille jusqu'au camping Val-de-Blois qui est à Vineuil, et puis après on reviendrait vers la Creusille, donc tous ensemble justement, donc avec à la fois des personnes atteintes de trisomie 21, et puis...
ou des sportifs, ou des gens qui veulent sortir le vélo une journée, donc le but c'est de faire une petite boucle tous ensemble, et de montrer qu'on est solidaires avec la trisomie 21.
Donc, en fait, tout le monde peut y participer.
Oui, tout à fait. Oui.
Et c'est quand déjà ?
Le 21 mars 2021. Après, ouais. C'est sûr que les consignes sanitaires vont peut-être nous forcer à mettre en place un minimum, un quota ou des départs programmés. Donc ça, c'est en pourparler aussi avec la mairie, en fonction de l'évolution du Covid. Donc, on espère faire à tout prix cet événement. Après, peut-être qu'il sera limité en nombre.
Est-ce que vous avez des craintes justement avec la crise sanitaire ? Déjà, en France, ça va être un peu compliqué pour le 21 mars, mais dans les autres pays, est-ce que vous avez des craintes par rapport à ça ou non ?
Quand on part, on ne peut pas penser à tout, il y a toujours des surprises. Mais il est vrai qu'aujourd'hui, on devait partir plus tôt. On avait une première date de départ qui était prévue en septembre 2020. À la base, donc on a redécalé, on s'est dit voilà, on va en sortir. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a le vaccin qui avance, on est confiant. Après, on a pas mal de contacts sur des blogs avec des voyageurs et on a beaucoup d'infos. On sait que il y a certains pays, il faut un test PCR de 72 heures par exemple. Après, on avancera, on verra. Si on est bloqué à certains endroits, on restera un peu plus, on trouvera un petit boulot. Mais ce qu'on sait, c'est qu'il faudra avoir sûrement le vaccin parce qu'il prévoit de faire un passeport vaccin aussi.
Et est-ce que vous comptez poster sur les réseaux sociaux vos exploits tous les jours, ce que vous allez faire ou pas du tout ?
Alors, ça sera pas forcément tous les jours, parce que déjà, selon les pays où on sera, on n'a pas toujours le réseau. Oui. Bon, même si, effectivement, quand on sera dans les villes avec les associations qu'on va rencontrer, je pense qu'on en aura. Mais oui, c'est pour ça qu'on a créé une page Facebook, un compte Instagram. On a aussi une chaîne YouTube pour pouvoir mettre des vidéos. Donc
un blog aussi.
Une GoPro avec l'équipement sport, justement, pour pouvoir faire des vidéos... sympa, donc oui, le but c'est de donner de nos nouvelles sur les réseaux pendant tout le parcours.
Le but est que nous on en donne, mais aussi qu'en fonction des événements, que les personnes qui nous rencontrent puissent aussi en donner. Donc on va, avant de partir, avoir un ambassadeur avec l'Éclaircie, donc l'association de Blois. Donc notre ambassadeur, on aimerait qu'il fasse un peu un petit compte-rendu chaque fois qu'on lui donne des nouvelles. À ses copains et aux gens de l'extérieur. Donc c'est aussi ça l'inclusion, c'est que on espère que cet ambassadeur là, il sera peut-être interviewé par vous dans les studios pour justement expliquer avec ses mots ce que l'on est en train de faire et où on en est.
Comment vous financez ce projet ?
Alors on a, comme on est en réflexion sur le projet depuis au moins 2-3 ans, on a vendu notre maison déjà.
Donc on n'a plus de toit.
Et puis on avait mis de l'argent de côté pour le projet. On est plutôt dans l'esprit quand même assez minimaliste, c'est-à-dire qu'on ne s'encombre pas de matériel. On ne se dit pas tiens, je vais acheter la dernière télé ou le dernier iPhone. C'est pas trop notre truc, donc on a plutôt mis quand même de l'argent de côté. Après, on a aussi recherché des sponsors sportifs pour nous aider sur une partie de l'équipement. Donc, on en a trouvé aujourd'hui un certain nombre.
On a mis aussi en place une cagnotte Kiss Kiss Bank. Donc, c'est du crowdfunding. On veut, par le biais de cette cagnotte qui se finit dans 10 jours, on va financer nos vélos. Donc là, on est à peu près, on va dire presque aux deux tiers. Donc on espère y arriver, mais Donc après, on a calculé le budget. On avait mis de l'argent de côté, on a vendu beaucoup de choses, mais on sait qu'il faut qu'on garde toujours de l'argent de côté, parce que le jour où on reviendra, on sait qu'on viendra, on retournera sûrement chez les parents en attendant de rebondir sur un nouveau boulot ou autre chose, quoi.
Voilà, mais bon, on est plutôt confiant. En tout cas, c'est vrai que c'est l'avenir ne nous inquiète pas.
Oh, c'est important pour des voyageurs. Si l'avenir ne vous inquiète pas, c'est principal quand même pour des voyageurs.
Et comment vous avez fait la liste du matériel nécessaire? Parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses à penser, que peut-être des expériences qui vous ont permis quand même de faire la liste.
Déjà, l'expérience de voyage à sac à dos, on sait ce qu'on peut mettre dans un sac de 60 litres. Déjà, il faut imaginer les sacoches de vélo. Il y en a deux à l'arrière qui font 40 litres, il y en a deux devant qui font 25. Il y a un autre sac qui va être sur les deux sacoches arrière qui fait 35 litres. Donc, on imagine le nombre de litres que l'on a par rapport à, quand on partait, le nombre de litres qu'on avait dans le dos. Et là, on imagine déjà un peu, on remplit un sac pour voir. Donc là, on a fait un sac avec des vêtements. Et après, on a des listes aussi qui nous aident via le site internet Tour du Mondiste. Et là, on sait qu'on va avoir donc un réchaud. On a une poche à eau qui peut faire jusqu'à 25 litres dans certains cas où il faut traverser un désert où il fait très chaud en Turquie pour l'été. Donc on
a un filtre à eau. Voilà, si on trouve pas d'eau, j'allais dire d'eau potable partout, on a un filtre. Voilà, on peut prendre de l'eau dans un étang, tout ça. On l'avait acheté ça à l'avance. Donc c'est vrai qu'avec notre expérience, ça nous aide quand même. Et puis
on n'est jamais mort de faim quand on est parti. on est resté en indépendant parfois pendant 3-4 jours seul dans les montagnes. On avait suffisamment à manger. Après, c'est un kilo de riz, c'est de l'huile d'olive. Et puis, on fait un plat très simple. La nourriture n'est pas le plus important, quoi.
Ce qui est certain, c'est pas parce qu'on a un vélo qu'il faut se dire « Ah bah oui, je le porterai pas sur mon dos, il faut que j'emporte tout ce qui est possible et inimaginable. » Parce que sinon, après, en plus, on n'avance plus. Donc, on est aussi dans le raisonnement. Si on portait ça sur notre dos, est-ce qu'on l'emporterait vraiment? Et on se rend compte, même en lisant l'expérience de beaucoup de gens qui sont partis longtemps, qu'il ne faut pas se dire « Ah bah tiens, mais je prends ça, ça pourrait me servir. » Non, en fait, il faut prendre vraiment.
Oui, ce qui va servir. Voilà. Pas penser à trop prendre. Je pense que tout le monde fait un peu ça. Moi, je pars en vacances, on ne sait jamais.
Oui, voilà.
C'est comme ça que la valise, avant, pèse 2 tonnes.
Parce qu'en fait, ils disent, après, on trouve aussi dans les pays. Donc, ce n'est pas la peine de se stresser avant voulant tout.
Puis après, on fait l'impasse sur... Émilie fera l'impasse sur le maquillage, par exemple. Moi, je vais faire l'impasse aussi. Bon, je ne me rase pas, mais on fait l'impasse sur plein de choses comme ça. Pas de rasoir. On n'a pas une paire de chaussettes par jour pour une semaine. On n'en aura que 3 paires. Et on va laver régulièrement les vêtements. Donc, pour qu'on ait suffisamment de vêtements, voilà, il ne faut pas se laisser déborder après.
Et vous parlez anglais couramment ou est-ce que c'est aussi l'apprentissage des langues qui va...
Couramment, non, tous les deux. Non. Mais on est pas mal parti en voyage, on connaît l'anglais.
L'anglais du voyageur, français. Oui, bad accent.
Après, on sait que ça va... Voilà, forcément, plus on le voit bien dans les voyages. J'étais partie, je me rappelle même à moi, en Australie. Enfin, quand on parle tout le temps anglais, après, forcément, ça devient... plus une habitude, donc ça...
Voilà, moi j'ai pris des cours d'anglais donc à Celt Formation. J'ai eu des cours d'anglais grâce à mon congé individuel de formation. Donc ça, il faut le savoir, c'est important. J'avais 30 heures de possibilité de cours d'anglais où parfois vous pouvez faire financer le permis ou d'autres choses. Donc j'ai eu des heures de cours qui m'ont été quand même bénéfiques pour me relancer dans l'anglais, mais... Bon, il faudra qu'on continue longtemps les cours parce que c'est vraiment pas simple.
Oui, ce qu'on essaiera, c'est d'apprendre quand même les mots de base de chaque langue, si possible. Hein. C'est ce qu'on fait toujours quand on voyage. Bon, heureusement, il y a Google Traduction aujourd'hui qui nous permet aussi de bien prononcer
les mots. Oui.
Les mots. Donc, on a quand même pas mal d'outils qui aident maintenant, même qui sont hors ligne. Voilà,
mais après, moi, j'encourage les gens à ne pas prendre Google Traduction. J'encourage les gens à essayer de se faire comprendre avec les mains, avec l'anglais, avec l'allemand.
Avec les dessins.
Avec des dessins. Parce que tout ce qui est virtuel, quand on est avec un on l'a vécu en Arménie, c'était plus compliqué parce que les gens ne parlaient pas anglais. Quand on est toujours avec le téléphone à faire la traduction, C'est vrai que les jeunes le font facilement, les Asiatiques le font beaucoup aussi, mais nous, on n'aime pas, on trouve que ça casse la communication. Quoi.
Il ne faut pas l'utiliser tout le temps, ça aide.
Pas tout le temps à outrance, parce que là, on a l'impression d'être à la maison devant son ordinateur. Quoi.
Et puis c'est dommage, en plus, quand on part en voyage, on va apprendre la langue, la culture, et c'est vrai que c'est dommage qu'on ait son téléphone.
Puis on écoute en plus les mots, ce qui est intéressant, c'est d'entendre les mots des gens, en fait.
Oui.
Et puis on en rigole aussi parfois.
Oui, quand on entend de refaire l'accent et que c'est pas trop ça en fin de compte. Mais bon, je pense que c'est comme tout le monde.
Administrativement, ça a été compliqué pour obtenir les visas, comme dans les pays comme la Chine par exemple. On sait que les visas, c'est un peu compliqué, tout ça.
Effectivement, oui, c'est une très bonne question. Donc, quand on part comme ça sur un voyage au long cours, on ne peut pas s'y prendre maintenant pour avoir les visas. En fait, les visas, ils vont durer 3 mois, 4 mois, enfin, ça sera trop tard. Donc, en fait, il faut absolument qu'on les fasse dans les pays avant, évidemment, de passer la frontière terrestre. Donc, on a bien regardé quand on a fait le trajet, les endroits, les ambassades, les consulats de chaque pays, les papiers qu'il fallait fournir, enfin voilà, pour être prêt. Alors, il y a pas mal de pays, notamment les pays d'Asie centrale, qui proposent des e-visas, donc on peut faire des démarches en ligne, tout ça, c'est assez facile. La Chine, c'est effectivement notre interrogation, d'autant plus qu'on va passer en Turquie. La Chine, voilà, n'aime pas du tout la Turquie et on sait qu'ils bloquent des voyageurs qui ont un visa turc sur le passeport. Alors normalement, il faut écrire un courrier. Pourquoi est-ce que vous avez été en Turquie? Qu'est-ce que vous avez été visité en Turquie? Tout ça. Donc on sait que c'est assez compliqué. Hein. Le visa chinois, clairement, ça sera le plus compliqué à avoir, d'autant plus que normalement, il dure qu'un mois. Et on peut avoir qu'une prolongation d'un mois. La Chine, c'est très, très grand comme pays. Donc, on a déjà prévu de prendre un train à grande vitesse pour le nord.
Parce qu'on n'aurait jamais pu traverser en 2 mois la Chine.
Non. Donc, on va pouvoir faire l'Est en 2 mois, mais c'est tout. Mais effectivement, on espère aussi qu'avec le projet, ça va nous aider à avoir ce visa. Sachant qu'on va évidemment écrire aussi à l'ambassade de France, etc.
L'association internationale de
l'association Trisomie 21 Chine, voilà. Parce qu'il faut une lettre d'invitation, donc eux pourront nous faire cette lettre d'invitation. Donc on pense que le projet va quand même faciliter l'obtention du visa par rapport à des voyageurs classiques. Mais effectivement, si après on est vraiment coincé, on faudra qu'on pense à un autre itinéraire.
On passera par... après, on n'aura pas le choix. Ça sera le Pakistan et l'Inde.
Donc, et vous préfériez de faire quoi entre l'Inde et le Pakistan ou la Chine?
En fait, moi, j'ai un peu plus, on va dire, le goût du risque. Et j'aime bien être dans des pays... je rêve de faire l'Inde, le Pakistan aussi, le Bangladesh, parce que c'est des pays atypiques, bondés de monde. Où là, vraiment, on a une culture, une explosion de culture, de choses nouvelles. Et moi, je préférais passer par la voie sud, parce qu'en plus, on devrait arriver à une saison très compliquée. L'hiver la Chine, c'est très, très froid. Alors que si on passe par l'Inde, c'est la saison chaude. Donc, à vélo
et
sèche. Donc, ça serait plus cool de passer sur le Pakistan. Mais par contre, quand on regarde les sites donc de diplomatie.gouv, c'est des pays qui sont en rouge où si on a un problème, on y reste. Quoi.
Voilà, parce que moi, effectivement, le parcours aussi a été aussi guidé par le choix, comme je disais, de ces pays plus ou moins... je suis déjà allée en Inde, contrairement à Devi, mais c'est vrai que j'adorerais y retourner. Mais voilà, moi, la question de passer par le Pakistan, quand je lis que c'est vraiment formellement déconseillé, qu'il ne faut pas se fier à des voyageurs qui sont passés, parce que la réalité est tout autre et qu'il y a beaucoup
La réalité, elle est aussi qu'Émilie, c'est une femme et moi, je suis un homme, donc j'ai moins de crainte aussi.
Oui, non, mais c'est pas pareil dans ces pays-là, il faut être honnête. L'Iran, le Pakistan, tout ça, la vie de la femme, les droits de la femme, c'est complètement différent. Donc, on verra de toute façon, vous tiendrez informé sur les réseaux.
Et au niveau justement de la trisomie 21, dans ces pays-là, ils en sont où? Enfin, je sais pas si vous savez, mais est-ce que...
On a relevé donc toutes les associations. Tous les pays n'ont pas d'association. On a toutes les adresses pour tous les pays, mais il y en a certaines comme en Azerbaïdjan, il y en a pas. Mais étonnamment, il y a beaucoup d'associations dans chaque pays que l'on va traverser.
Oui, et contrairement à ce qu'on pourrait penser, on pourrait peut-être se dire, tiens, dans certains pays, ils font peut-être moins d'actions ou tout ça. Ben, en fait, pas du tout. C'est pas parce qu'on est en Ouzbékistan qu'on fait moins d'actions pour l'inclusion ou tout ça. Et ce qui est bien, c'est que sur le site de l'association internationale, il parle de toutes les actions, les actions voilà, au Kirghizistan, les actions en Afrique, les actions... Donc on voit qu'il y a beaucoup de pays, en tout cas, qui travaillent vraiment sur l'inclusion. Après, au niveau du dépistage...
Qu'ils font naturellement aussi.
Au niveau du dépistage, par contre, de la trisomie 21, c'est vrai qu'il y a certains pays qui sont moins, en tout cas, avancés
que nous. France.
Voilà.
Et est-ce que vous comptez aller à la rencontre de certaines organisations ou associations d'ailleurs?
C'est pas prévu. Ouais.
C'est ce qu'on va faire le long du parcours, effectivement. Ouais,
on va envoyer donc un mail à chaque association. Après, c'est le problème de date. On ne sait pas quand est-ce qu'on arrivera. Mais on enverra un mail et puis ils nous suivront sur les réseaux où on leur dira, voilà, on sera là dans un mois. Pour pouvoir faire, pour qu'on arrive à faire une action. Quoi.
L'idée, c'est de faire des petits événements sportifs voilà, qu'eux organisent et via lesquels on espère qu'ils pourront récolter des fonds pour leur association locale. Parce que nous, effectivement, on va récolter des fonds pour Trisomie 21 France, pour l'association internationale, parce qu'on a ouvert des pages de collecte de dons. Mais après, pour ces associations locales dans chaque pays, on voudrait qu'ils utilisent finalement notre projet pour eux, récolter des fonds.
Mais vous ne pensez pas qu'avec le Covid, ça peut vraiment compliquer les choses? Peut-être que vous ne pourrez pas faire ces événements, ce qui est vraiment dommage, parce que c'est quand même vraiment un projet intéressant.
Une belle opportunité aussi. Hein.
C'est vrai. Ouais. Après, on pourrait encore décaler, mais en fait, on décale souvent. Et en regardant l'évolution depuis des années dans les pays, si ce n'est pas le Covid, ça peut être une guerre. Si ce n'est pas une guerre, c'est des problèmes politiques. En fait, on s'aperçoit que sur la planète, on est plus libre de faire ce que l'on veut. Parce qu'il y a toujours en fait quelque chose. Donc le Covid, c'est un élément de plus. On sait que là, ça a ralenti beaucoup les actions que l'on voulait faire.
Le but, c'est quand même de faire des événements dehors. Et on voit par exemple qu'en France, on l'a bien vu dans les attestations, par exemple, les personnes qui ont des handicaps ont des dérogations aussi pour faire des activités et sortir, etc.
Ils peuvent aller à la piscine, c'est autorisé.
On compte aussi se baser là-dessus en se disant qu'en plus, on fait des événements dehors et pas à l'intérieur serré et que les personnes qui ont des handicaps ont quand même justement... alors, c'est peut-être pas le cas dans tous les pays, mais voilà, on est confiant et on espère qu'avec l'arrivée du vaccin, tout ça, la situation s'améliore. C'est sûr que si on était parti l'année dernière, je pense que ça aurait été vraiment super compliqué. Mais...
Bon, à l'heure actuelle, on sait qu'il y a des pays... où on va passer, qui sont avec un test PCR. Donc, il y a des gens qui ont peur, ils ne font pas d'événements, mais tout ce qui est sport en plein air, ça se fait quand même.
Bon, tant mieux. Par contre, je me posais une question. Vous partez que tous les deux ou vous avez une équipe derrière vous? Parce qu'on peut se dire, partir à deux, ça explose pas mal.
Non, part que nous deux. Alors, si des gens veulent nous rejoindre sur la route ou au départ pendant une, deux journées ou plus, pourquoi pas. Après, on a des copains qui nous ont rejoints, par exemple, en Bulgarie.
On aura des amis sûrement qui nous rejoindront à des moments du parcours et aussi qu'on va rencontrer d'autres voyageurs. En plus, on est dans une association de voyageurs et on a participé à un appel à projet. Donc, on a gagné justement le label de cette association qui s'appelle Aventure du bout du monde, qui est une association nationale qui rassemble à peu près 2000 adhérents. Et on a notamment un groupe WhatsApp avec les autres personnes qui ont gagné le label depuis des années et qui sont souvent sur les routes, qui ont des projets comme nous. Et on a déjà vu qu'il y en a qui vont passer aussi par les pays qu'on va faire. Donc on sait qu'on pourra faire un bout de trajet ensemble. Donc ça sera vraiment une belle rencontre.
Et comment votre famille, elle a réagi en leur disant on s'en va, on ne sait pas quand on vient
Ils ont réagi à retardement en fait.
Ils vont dire mais non, c'est pas possible, voilà. Partez où, combien de temps, pourquoi tu fais ça? Pourquoi pas seulement créer une association
parce oui, c'est vrai.
Oui, c'est vrai, on aurait pu, mais nous, notre motivation, c'est le voyage, le sport. Et donc la troisième chose, c'est l'entraide. Donc... Bon, après...
On aurait pu juste créer une association, mais on s'est dit pourquoi on créerait une association alors qu'au final, il y en a déjà beaucoup qui existent aujourd'hui. Donc, pourquoi en faire une de plus déjà ? Et en plus, on avait envie de partir. Mais c'est sûr que leur réaction, effectivement, ils étaient inquiets. Ils se sont dit, oh là là, mais vous quittez une vie avec un bon salaire, un confort de vie, la sécurité, etc. Et puis vous partez comme ça à l'aventure sans date de retour. En
après, il y a plusieurs réactions. Nos pères n'ont rien dit. Ils ont été, ils pensent beaucoup, en fait, les pères, mais ils disent rien. Et après, pour les mères, c'est l'esprit de protection. Donc ma mère, à chaque fois que je la vois, elle me dit « Mais t'es sûr que tu vas passer par la Turquie ?» À chaque fois que je la vois, c'est ça, c'est la Turquie, la Turquie. Donc je lui ai donné un livre sur des voyageurs qui sont passés par la Turquie et qui ont fait à peu près notre route. Et la Turquie a été pour eux le plus beau des pays. Ils n'ont jamais dormi en tente, ils n'ont jamais eu de problème de nourriture, jamais eu de risque. Et donc, depuis qu'elle lit le bouquin, elle dit « Ah ben oui, c'est vrai que la Turquie, je ne m'en rendais pas compte, ça a l'air assez sympa. »
Ils sont très accueillants là-bas.
Voilà, ouais, c'est un super accueil. Et ta maman, Émilie
Moi, Noël, elle le prend plutôt bien, mais effectivement, c'est sûr, je pense qu'on est mère, le manque voilà, de ses enfants, tout ça.
Maintenant, elle commence à pleurer.
Ça, elle réalise vraiment qu'on s'en va. Avant, je pense qu'elle ne réalisait pas, mais depuis Noël, là, elle se dit, ça y est, en fait, ils vont le faire, c'est parti, ils passent dans les
médias, ils vont devenir vraiment des...
Ça y est, enfin,
ils ont quand même 70-75 ans, donc dans leur tête, ils se disent malheureusement qu'on part pour un an, deux ans, et ils se disent peut-être que quand ils vont partir, ce sera la dernière fois qu'on les verra, parce qu'on ne sait pas comment la vie se passe. Donc c'est pour ça qu'on leur dit depuis des années, il faut qu'on profite, il faut faire des choses, il ne faut pas s'engueuler, il ne faut pas avoir faut vivre les moments présents, quoi.
Mais on a essayé, nous, ces dernières années, en tout cas, de vraiment, justement, les voir régulièrement, faire des choses avec eux. Les cadeaux de Noël ou d'anniversaire, plutôt que d'offrir des choses matérielles, c'était plutôt, on va passer un week-end ensemble ou une semaine ensemble en Andalousie. C'était vraiment passer du temps.
Le but, c'est de prendre du temps avec les parents, pas dans le matériel, pas dans l'abus d'activité, mais simplement une partie de carte. Un petit restaurant,
Et heureusement, avec les réseaux sociaux, c'est ce qu'on leur dit aussi, ça facilite. Parce qu'avant, évidemment, on s'appelait, il y a 50 ans, et puis ça coûtait en plus des sommes démentielles. Maintenant, déjà dans toute l'Europe, c'est les mêmes frais. On peut utiliser WhatsApp, se voir en vidéo, voir la personne. Je pense que c'est aussi quand même vraiment important, en plus de la voix. Donc...
on veut pas être tous les soirs, on sait quand on est parti 3 mois, on veut pas tous les soirs appeler, tous les soirs mettre un message. On est plus du genre le week-end une nouvelle et puis quand on peut pas le week-end, ça sera le week-end d'après et puis parfois c'est tous les mois, quoi. On veut pas se sentir encore en France, quoi.
C'est une vraie philosophie qui va avec votre voyage, en fait.
Être dans le voyage lent, pas être stressé par les réseaux tout le temps, mettre des posts toutes les... Voilà, donc ça, c'est vrai qu'on veut aussi un peu se détacher de l'aspect, informatique qui, aujourd'hui, prend beaucoup de temps dans la vie de tout le monde. Alors certes, ça va être utile, effectivement, pour partager les aventures, ça nous est utile pour créer des cagnottes, enfin, ça nous est utile pour beaucoup de choses. Mais ce qu'on veut vraiment, c'est aller à la rencontre de l'humain, plus que...
Ce qu'on aurait aimé, c'est avoir un webmaster, c'est comme ça qu'on dit, un webmaster.
Un community manager.
Community manager qui puisse relayer nos informations, faire un site internet. Mais après, on n'a pas trouvé pour le moment une école ou quelqu'un qui pourrait le faire ou une association.
Ça viendra peut-être pendant le parcours.
Peut-être,
On a les pages Facebook, tout ça. Maintenant, c'est quand même assez suivi, on se dit que... Et c'est facile pour nous d'utiliser. Et en plus, de toute façon, l'association française, l'association internationale, on a des partenaires aussi qui vont quand même relayer nos aventures sur les réseaux. Donc, voilà.
Et on espère que peut-être que si vous n'avez pas vos associations qui vont vous aider, que parmi les gens qui nous écoutent, vous allez trouver un community manager, on ne sait jamais.
Peut-être s'il y a quelqu'un qui a envie d'aider la bonne cause, parce que le but c'est aussi de mettre la cause en avant, ce n'est pas que le voyage, mais on donne des infos, la personne s'occupe de mettre les infos et après essayer de fédérer d'autres personnes à côté, quoi.
vous craignez pas un peu faire, il me semble que vous allez faire 140 000 km ou
14 000,
c'est déjà beaucoup.
14 à 20 000. On va se mentir.
Mais vous craignez pas physiquement, genre, d'être fatigué parce que tous les jours, on repart.
Elle a fait 10 km de vélo et elle a eu mal et elle s'est dit
Ah, mais il faut en faire plus et tous les jours. Donc tu fais 10 km, après t'en refais 10 km le lendemain, après t'en fais 15. Tu fais une petite pause parce que généralement on a mal aux fesses et ailleurs.
C'est ce que je ressentais.
Mais en fait, au bout de Émilie, non, ça va. Maintenant, elle a une selle adaptée.
Oui, j'ai acheté vraiment une bonne selle italienne. Moi, c'est pas une selle du coup pleine, c'est une selle avec une sorte de trou, etc. Adaptée pour les femmes. Il y en a des adaptées pour les hommes aussi. Mais en dehors de la selle, je pense que c'est vraiment l'habitude. Parce que moi, effectivement, enfin, il y a 2 ans, j'aurais dit non, là, le vélo, c'est trop dur. Parce que même si je faisais beaucoup de, on est assez sportif, vous faites de la course à pied, tout ça. Pour moi, le vélo, c'était vraiment beaucoup plus dur que la course. Et je me disais, mais en vélo, mais j'y arriverai jamais, ça va être trop dur. Et en ayant lu et puis aussi entendu des gens qui sont partis à vélo qui n'étaient même pas sportifs, donc je me suis dit, du coup, ils n'avaient aucune expérience du vélo et tout, et ils sont partis comme ça faire...
C'est la tête, en fait, qui fait avancer le corps.
Et ils nous ont dit qu'ils n'avaient pas tant peiné. Alors évidemment, au début, il ne faut pas partir en se disant, je vais faire 100 km par jour. Il faut se fixer des moyennes basses, et après, le corps, finalement, s'habitue. Il s'habitue à la difficulté. Bon, on sait qu'il y aura des moments durs, hein. C'est sûr que quand on sera dans des pentes vraiment très raides, tout ça, c'est sûr qu'on va se dire peut-être qu'est-ce que je fais là, il pleut, il fait froid, je suis là dans ma pente, mais là, après, c'est une question de mental. On a un bon mental quand même tous les deux.
On a déjà fait 3 jours à vélo, moi j'en ai fait 5, on a fait du mode sac à dos aussi. Et là, le premier test, c'est la semaine prochaine, on cherche nos vélos à Clermont-Ferrand. Donc, on y va en Blablacar. On arrive à Clermont et on rentre. On a 4-5 jours pour rentrer, faire Clermont-Ferrand-Blois à vélo.
Il y a 300 km.
300 km.
Donc, en soi, c'est un pré-entraînement pour...
En hiver.
Et ça va rôder nos vélos.
Parce qu'en fait, le vélo, c'est pas trop ça qui est... C'est pas le vélo parce qu'on a des moyennes jours prévues, on va dire, entre 40 et 100. Il y en a à la fin, ils font 150 bornes par jour parce que c'est une habitude. Mais là, on a des moyennes basses au début, après ça évoluera. Mais en fait, l'hiver, le problème, c'est l'équipement pour la pluie et le froid. Donc, c'est pas les muscles qui sont durs là, c'est avoir des bons gants, c'est la pluie, comment est-ce qu'on fait pour sécher les vêtements. Le soir, on se couche dans la tente, si le duvet est trempé, alors là, on dort très mal. Et le lendemain, on se lève, on est encore plus crevé. Et là, on tient 2 jours, on arrête, on rentre en train.
Mais justement, j'ai déjà interviewé des gens qui étaient partis où ils allaient dans le plus froid possible.
Oui.
Et ils disaient qu'ils n'achetaient pas en France parce que ce qu'on proposait en France, c'était pas du tout adapté. Parce que dans les pays où il fait plus froid, on avait des choses qui étaient beaucoup plus adaptées.
Oui, alors c'est sûr que...
Mais ce qu'on voyait pour les chaussures, par exemple, clairement, chez nous, il n'y a pas ça. Par contre, si on regarde au Canada, oui, ils ont des chaussures pour moins 25, moins 30, par exemple... Donc déjà, on ne va pas emporter de choses pour les températures très froides qu'on va rencontrer, effectivement, par exemple en Ouzbékistan ou des choses comme ça. On ne va pas les emporter maintenant. Il est possible qu'on en achète une partie et que nos parents nous les envoient
le long de la route.
Le long de la route quand on sera dans ces pays-là. Voir aussi qu'on achète dans les pays, effectivement. Après, ce qu'on a acheté, par contre, c'est une tente 4 saisons, vraiment très résistante, qui est une tente suédoise, parce qu'en Suède, il fait aussi très froid. Ils sont très sport nature, donc on s'est tourné vers les pays, si possible, européens, puisqu'il n'y avait pas en France. Donc la Suède, ils ont beaucoup de trucs, enfin tous les pays nordiques, ils ont quand même pas mal de choses. Par contre, les duvets, il y a déjà des très bonnes marques françaises, puisqu'on a quand même la montagne, etc., qui font des duvets qui résistent.
Il y a quelques marques françaises, il y en a une à Amboise, on a un duvet d'une marque qui est fabriquée en Amboise, par exemple, un duvet qui tient jusqu'à moins 20 en température confort.
Oui, parce qu'on voulait quand même privilégier, si possible, les achats locaux ou français. Bon, et après, dans un second temps, si ça n'existe pas, évidemment, européen ou...
Avec Internet, maintenant, c'est quand même assez facile.
Mais oui, puis en plus, maintenant, il y a les comparateurs de prix, donc voilà, on peut regarder, c'est pratique. C'est ça que c'est beaucoup mieux.
Alors qu'avant, quand on a lu des gens qui sont partis il y a 20 ans, sans les réseaux Internet... Ils partaient sans équipement et ils s'équipaient au fur et à mesure de la route. Quoi.
Oui. Et sans GPS, maintenant, c'est sans vrai que GPS ça aide aussi, quand même. pour le parcours.
C'est avec la carte, s'il pleut,
voilà, c'est ça.
C'est un peu compliqué, hein. Oui.
Ben, on va finir cette interview avec juste une petite question. Est-ce que vous pourriez nous donner un ou deux mots pour caractériser votre projet? C'est difficile comme question.
Ou quelques mots, si vous n'arrivez pas à trouver
le mot parfait, c'est pas grave.
Bah, y avait...
Solidarité.
Ouais, puis moi, c'est sport, aventure.
Eh ben, c'est parfait.
Oui. Voilà.
Merci beaucoup.
Merci d'être venu.
Merci à vous.
On espère que nos auditeurs vont vous soutenir. En tout cas, il y aura tous vos réseaux sociaux sur la page de Studio ZEF. Donc, n'hésitez pas à aller y faire un tour.
Merci.
Merci.
Cette émission vous a été présentée par Clara
et Julien.
Nous espérons qu'elle vous a plu.
Et nous vous retrouvons vendredi prochain. Si vous avez des initiatives à mettre en valeur,
n'hésitez pas à nous contacter sur studiozef.fr.
Nous vous ferons un plaisir de vous rencontrer.
À bientôt!